Genève. Côté. Nature.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cité Genève et dans votre émission Nature hebdomadaire Genève Côté Nature. Je suis Émilie, une des fondatrices de l'association Nariès, et je suis évidemment accompagnée par ma sœur jumelle Virginia, l'autre fondatrice de l'association.
Bonjour! Dans cette émission, vous le savez, nous tournons autour de plusieurs volets. Un côté passion, un côté vadrouille, un côté astuce et un côté science. C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui. Mais nos côtés sciences sont variés. On vous a parfois décrit des études scientifiques parues, parfois des chercheurs qui avaient fait tel ou tel travail.
On vous a aussi décrit des groupes d'organismes comme les amphibiens, les champignons ou les fourmis, ou des milieux particuliers comme l'écosystème alpin ou l'écosystème urbain.
On a parlé de choses un peu plus vastes comme l'eau, le soleil ou les nuages, ou au contraire plus détaillées comme les anciens outils ou les origines des mythes connus.
Et finalement, on a parfois parlé de comportements entre des animaux ou de comportements des animaux en fonction de la période de l'année.
C'est un volet qui se veut varié et qui a pour but de mettre à la portée de chacun des notions scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre notre environnement et la nature qui vit autour de nous. Aujourd'hui, nous continuons dans cette dernière lignée et nous vous proposons une émission sur les animaux au printemps. Et pas n'importe lesquels, les insectes qui sortent dès que les journées se réchauffent.
Mais avant de partir sur ce thème, n'oublions pas notre Eco-Challenge 2022 et le défi numéro 18 qui vous propose cette semaine de ramasser un déchet par jour. On a souvent tendance à dire « Oh, c'est pas moi qui l'ai mis là ». Et vous avez bien raison. Si vous avez le respect de l'environnement dans vos priorités, vous avez l'habitude de ne pas laisser de déchets derrière vous en pleine nature. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas de tout le monde et malgré les efforts de la voirie, il y a de nombreuses zones qui sont jonchées de détritus que des gens peu scrupuleux laissent traîner. Eh bien cette semaine, il n'y a pas de « c'est pas moi qui tienne ». On fait un effort pour la communauté et on corrige les erreurs des autres en ramassant un déchet quelque part pour l'enlever de notre environnement ou de nos rues et le mettre là où est sa place, c'est-à-dire dans une poubelle.
Vous savez que nous vous proposons chaque semaine de publier des photos de vos défis réussis sur les réseaux sociaux. Eh bien, certaines personnes ont déjà pris de l'avance puisque depuis le début de l'année, nous avons vu passer plusieurs posts avec des déchets ramassés au gré des promenades. Un grand bravo à vous! On continue donc sur cette lancée et on redouble d'efforts cette semaine pour trouver un déchet par jour à mettre dans une poubelle. Pour publier vos succès, je vous rappelle les hashtags EcoChallenge 2022 et hashtag Nariès-CH pour que nous voyions vos trouvailles.
Voilà, le défi est lancé et nous pouvons reprendre notre sujet du jour, les insectes au printemps. Alors déjà, parlons un peu des particularités de cette saison. Nous venons de quitter l'hiver, cette saison froide où tous les organismes semblent fonctionner au ralenti pour économiser de l'énergie tant que la nourriture se fait rare et que les températures ne nous donnent pas envie de pointer le nez dehors. Le printemps est une saison qui commence officiellement le 20 mars, ou le 19, ou le 21. La date n'est pas toujours la même parce qu'elle dépend du jour de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire que c'est la date à laquelle la durée du jour est égale à la durée de la nuit, parce que l'équateur de notre Terre est alors parfaitement aligné avec le Soleil. Il existe évidemment un autre équinoxe dans l'année, c'est en automne. Cette année, l'équinoxe de printemps était le 20 mars, et à partir de là, les journées rallongent et les nuits raccourcissent, du moins sous nos latitudes. Il y a aussi les températures qui augmentent gentiment, et tout ceci a un effet sur les habitants de notre planète.
On parle de température et de photopériode pour la durée du jour et de la nuit, et quand les journées sont plus chaudes et la lumière du jour présente plus longtemps, eh bien ça fait réagir les êtres vivants. Les premiers détails qu'on repère sont les plantes qui bourgeonnent et fleurissent parce que la sève recommence à circuler pour alimenter toutes les parties de l'arbre. On repère aussi les oiseaux qui commencent à chanter ou qui reviennent de migration et la présence des animaux qui s'étaient cachés pendant l'hiver et qui commencent à sortir. C'est le cas notamment des escargots qui sortent après les premières pluies printanières ou des hérissons qui ne sont plus dans une torpeur hivernale. Et qui dit printemps dit saison des amours. C'est d'ailleurs pour ça que les oiseaux chantent, ils cherchent un partenaire et défendent leur territoire.
On pourrait décrire de nombreux phénomènes qui se produisent à cette saison dans le règne animal et le règne végétal, mais on a décidé aujourd'hui de se focaliser sur un groupe particulier d'animaux qu'on voit peu durant les périodes froides, mais qui revient en force avec les beaux jours, ce sont donc les insectes.
Alors c'est vrai que les insectes, ils ne font pas toujours partie des animaux les plus aimés, les pauvres. Et pourtant, ils sont ô combien importants pour notre planète parce qu'ils sont responsables de la majeure partie de la pollinisation des plantes. Et cela vaut pour les plantes cultivées ainsi que pour les plantes à l'état naturel. Sans les insectes, il y aurait bien moins de diversité de plantes, bien moins de forêts et bien moins de fruits et de légumes dans nos assiettes.
Alors juste une rapide introduction sur cet ordre particulier. Les insectes font partie des invertébrés parce qu'ils n'ont pas de squelette interne. Ils n'ont donc pas de vertèbres. Ils ont un corps mou, recouvert d'une carapace faite de chitine. Leur corps est composé de trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Ils ont une paire d'antennes, trois paires de pattes. Ils ont aussi des ailes, une ou deux paires, à l'état adulte, mais certaines familles les ont perdues et ne les présentent que pour les individus reproducteurs, c'est le cas des fourmis. L'exosquelette est rigide et la croissance est donc faite par mues successives. Lors de la mue, l'exosquelette se casse, l'insecte sort de sa carapace devenue trop petite et une fois que son nouveau squelette a séché, il peut reprendre ses activités.
Évolutivement, les insectes sont un succès phénoménal. Ils sont les premiers organismes, il y a plus de 400 millions d'années, à être sortis de l'eau et à s'être adaptés à la vie terrestre. Aujourd'hui, il y a 1,3 million d'espèces décrites, mais sachant que près de 10 000 nouvelles espèces sont inventoriées chaque année, on estime qu'il en existe entre 4 et 50 millions. À eux seuls, les insectes concernent 55% de la biodiversité et 85% de la biodiversité animale. En termes de biomasse, les insectes seraient 300 fois plus importants que les humains et 4 fois plus importants que les vertébrés. À savoir les insectes sociaux, donc les hyménoptères, fourmis, abeilles, guêpes, les termites et certains coléoptères, passalidés et curculionidés, représentent à eux seuls la moitié de la biomasse de tous les insectes.
Dernier point théorique qu'on va aborder avant de passer en revue les insectes qu'on peut observer autour de nous dès le début du printemps, c'est la croissance des insectes, ou plutôt leur cycle de développement. On a dit avant que les insectes avaient tous des ailes, c'est une de leurs caractéristiques. Mais on a tous déjà regardé une chenille, il ne me semble pas qu'elle puisse s'envoler. C'est parce que la chenille n'est que le stade larvaire d'une autre forme d'insecte que nous connaissons bien, le papillon. Et lui, des ailes, il en a.
Parmi tous les insectes, certains ont une forme proche de la forme adulte dès le début de leur vie, et d'autres changent complètement d'allure. Un des cycles de développement les plus simples se voit chez les aptérygotes. Ce sont des organismes invertébrés qui sont proches des insectes, mais qui déjà n'ont pas d'ailes, et ensuite qui n'ont pas de métamorphose. On dit que leur cycle de développement est ametable. Pour eux, un jeune insecte ressemble fortement à un insecte adulte, sauf qu'il est plus petit.
Les deux autres grandes catégories d'insectes sont les insectes hémimétaboles et les insectes holométaboles. Pour les hémimétaboles, on a trois stades, l'œuf, la larve et l'adulte, qu'on appelle aussi imago. Les animaux passent d'un stade à l'autre par une métamorphose et subissent donc une mue, comme on vient de le dire. Souvent, les larves et les adultes vivent dans des milieux différents, ce qui leur permet d'occuper des niches écologiques différentes et de ne pas être en compétition les uns avec les autres. Les insectes qui sont dans ce groupe sont les odonates, donc toutes les libellules et les demoiselles, et les cicadidés, donc les cigales.
Et finalement, on a la catégorie la plus répandue, c'est celle des holométaboles. On a ici quatre stades, l'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte ou imago. Chez ces animaux, la nymphe est un stade immobile et la larve diffère complètement de l'adulte. Cette dernière va faire plusieurs mues pour grandir tout en étant très active. Puis, au dernier stade larvaire, elle va se protéger en formant un cocon ou une chrysalide et passer par l'étape nymphale. L'insecte subit alors une métamorphose qui se termine aussi par une mue et un individu très différent sort de l'ancienne carapace. Pour ces animaux aussi, la larve a souvent une niche écologique très différente de celle de l'adulte pour éviter la compétition. Un exemple typique d'un animal présent dans ce groupe est le papillon, dont la larve est la chenille, mais il en existe évidemment bien d'autres. Tous les coléoptères notamment. Souvent au printemps, des gens se demandent ce qu'est une petite créature présente sur les plantes, noire et rouge, avec un dos plein de petits dômes. Eh bien, c'est la larve de la coccinelle. Elle ne lui ressemble en rien. Autre exemple, le moustique. Sa larve est aquatique et ressemble à un mini clou. Tous ces animaux vont subir une métamorphose qui va leur donner leur forme adulte.
La durée de tous ces développements est très variée. Un papillon, par exemple, est sous la forme d'œuf pendant une dizaine de jours, sous forme de chenille pendant quelques semaines à quelques mois selon l'espèce. puis la chrysalide dure entre 2 et 6 semaines, et le papillon adulte ne vit parfois que quelques jours, voire quelques heures, ou au contraire plusieurs mois. Un des développements les plus longs est celui de la cigale. Durant l'été, les cigales s'accouplent. La femelle va pondre entre 400 et 500 œufs, puis les adultes vont mourir. À l'automne, les larves éclosent et s'enterrent dans le sol où elles vivront des années. Oui, oui, vous avez bien entendu, des années. Évidemment, certaines espèces ont un cycle moins long et en vérité, ça va de 10 mois à plusieurs années, mais le record est de 17 ans pour des espèces américaines. Quand les conditions extérieures sont favorables, elles sortent, elles grimpent le long d'un tronc et se métamorphosent en cigales en 15 minutes. Et 3 heures de plus sont nécessaires pour que le corps sèche et que l'adulte soit opérationnel. Il va vivre quelques semaines, le temps de se reproduire, et il va mourir.
Voilà, on en a fini avec la théorie. Dans la deuxième partie de cette émission, on va passer en revue les différents insectes qu'on peut voir autour de nous depuis le retour des beaux jours et vous apprendre à les reconnaître. Mais avant, nous avons notre traditionnelle pause musicale. Aujourd'hui, nous allons écouter Bernard Joyet et sa chanson « Verdun » qui compare le monde parfois cruel des insectes à notre civilisation dans laquelle les combats ne sont souvent pas moins féroces.
Radio Cité Genève.
Le temps semble s'offrir une sublime pause. Tout est sérénité dans mon joli jardin. Si je me penche un peu, quelle métamorphose. Si je me penche encore, alors là, c'est Verdun. Élytres, carapaces se heurtent, se fracassent, boucliers et carcasses s'entassent dans des trous. Et dans un spasme infime, un soubresaut ultime, les infirmes victimes s'embourbent dans la boue. C'est Verdun. Les griffes s'articulent comme des tentacules portant aux mandibules une nymphe éventrée. Par une plaie ouverte perle la sève verte de cette larve inerte, lacérée, déchirée. C'est Verdun. Cruellement lamente, au demeurant charmante, délicieuse amante dissèque son amant. Une fourmi géante suce la chair gluante, une cigale piante qui se meurt en chantant. C'est Verdun. Et le grillon champêtre gesticule sans paître, ses pattes s'enchevêtrent dans les mailles de soie. La nasse arachnéenne de force herculéenne l'enrobe d'une gaine qui étouffe sa proie. C'est Verdun. Titanisé de trouille, les soldats en vadrouille croisent une patrouille de carabes dorées, narguant la citadelle. La brave coccinelle exhibe aux sentinelles son torse décoré. C'est Verdun. On s'incise la carne, on s'étripe, on s'écharne, on s'agrippe, on s'acharne, corps à corps, bout portant, les viscères tranchés, les ailes arrachées et les têtes fauchées jonchent le sol fumant. C'est Verdun. Et quand le jour s'étiole sous le feu des lucioles, les dernières bestioles s'escriment au combat, les sylphes nécrophages passent au ramassage des restes du carnage, des boyaux, des abats. C'est Verdun. Si au-dessus de nous trône un être suprême, il devrait se pencher sur son joli jardin. Les insectes, c'est nous, nos guerres sont les mêmes. La terre est un foutoir qui ressemble à Verdun. Crânes et carapaces se heurtent, se fracassent, boucliers et carcasses s'entassent dans des trous. On s'incise la carne, on s'étripe, on s'échappe, on s'agrippe, on s'acharne, embourbé dans la boue, en débâcle fébrile, des effarés s'exilent, dans la botte imbécile, à piétiner les fleurs, en colonne infinie,
une horde bannie dérive à l'agonie sous l'œil du prédateur.
C'était Verdun de Bernard Joyet. Vous êtes de retour dans Genève, côté nature, l'émission de l'association Nariès. Aujourd'hui, nous parlons des petites bêtes qui sortent enfin de leur torpeur hivernale pour profiter des beaux jours qui reviennent. Dans la première partie de notre émission, nous avons expliqué ce qu'était un insecte et nous avons regardé comment il se développe, avec certaines espèces qui changent complètement de forme entre le stade larvaire et le stade adulte grâce à la métamorphose.
Maintenant, nous allons discuter de quelques espèces que nous pouvons avoir la chance d'observer en ce moment. Il est vrai que les trucs qui volent ou qui grouillent ne sont pas les meilleurs amis de la plupart des gens, mais vous verrez, si vous prenez le temps et votre courage à deux mains pour les regarder de plus près, vous verrez que certains sont de vraies beautés totalement inoffensives qui valent la peine d'être considérées.
Alors évidemment, dans une émission de radio, c'est un peu compliqué de décrire des espèces. Et si on vous énumérait tous les critères d'identification, ça en deviendrait carrément rébarbatif. Du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de passer en revue les plus communs des insectes du moment, dans le but de pouvoir les reconnaître, plus ou moins. On va quand même vous donner quelques détails, hein, pour pouvoir les différencier, mais le but est de vous donner des pistes plutôt que des réelles descriptions. On va aussi évidemment être clair sur les noms, comme ça, si ça vous donne envie, vous pourrez aller chercher des images sur internet ou dans des bouquins.
Et quoi qu'il en soit, si vous observez un animal et que vous ne savez pas l'identifier, n'hésitez pas à nous envoyer une photo, nous ferons l'identification pour vous avec plaisir. Alors on va commencer simple par un des premiers insectes qu'on voit au printemps. Un petit hémiptère rouge et noir, j'ai nommé le gendarme ou le cordonnier. Alors lui, normalement, tout le monde le connaît. Hein. C'est une petite bête qu'on voit sur les trottoirs ou dans les haies. Elle est très habituée aux zones urbaines. Sa plante préférée est le tilleul ou le robinier, et en particulier leurs graines. Quand on le voit en début de saison, on voit parfois des amas de plein de gendarmes sur les murs parce qu'ils cherchent ainsi à se réchauffer. Ce n'est évidemment pas le seul insecte noir et rouge, loin de là, mais le motif de son dos est vraiment caractéristique, avec notamment deux gros points noirs bien visibles. Si vous voulez noter les autres espèces qui lui ressemblent le plus, on a la punaise écuyère qui a aussi des motifs sur le dos, mais un point blanc qui permet de la différencier. Et le clairon commun, qui est un coléoptère et qui est tout poilu, ce qui permet aussi de faire la différence avec le gendarme qui, lui, ne l'est pas.
Autre insecte qui peut être rouge et noir, mais de bien d'autres couleurs aussi, qu'on ne risque pas de confondre avec le gendarme ou avec qui que ce soit d'autre, tellement sa forme est connue, c'est un petit coléoptère, la coccinelle. Alors là, autant dire « c'est une coccinelle, c'est facile », autant différencier les espèces, ça l'est beaucoup moins. Certes, certaines portent dans leur nom le nombre de points qu'elles ont sur le dos. Mais quand on observe une coccinelle à 22 points, comment dire, il faut qu'elle soit plutôt coopérative pour qu'on puisse compter jusqu'à 22. Et même parfois, tous les points ne sont pas bien visibles et la couleur de fond peut changer. Et bref, on va déjà s'en tenir au terme coccinelle, ça ira bien pour aujourd'hui. À savoir, ces animaux sont souvent utilisés dans la lutte biologique parce qu'ils sont carnivores et ils peuvent manger près d'une centaine d'autres insectes par jour, comme les pucerons, les cochenilles ou les acariens, qui entre nous soit dit ne sont pas des insectes mais des arachnides. Les coccinelles sont donc les alliés du jardin en luttant contre les parasites.
On change de groupe maintenant et on va parler du symbole du printemps parce que quand on les voit, c'est qu'il va gentiment faire beau et chaud, ce sont les papillons. On adore quand ça commence à voler partout, ils sont colorés, ils sont totalement inoffensifs, ils forment de jolis tableaux en passant de fleurs colorées en fleurs colorées. En tout cas, nous, on aime beaucoup les papillons. Mais alors, pour les différencier, alors là, c'est pas facile. Hein. C'est vrai qu'en soi, ils ont tous un motif précis, mais il faut les observer d'assez près, les ailes ouvertes ou fermées, et évidemment, certains ne sont pas coopératifs pour un sou et sont systématiquement dans une position inverse. Et ne parlons même pas de leurs chenilles, qui, elles, sont encore plus difficiles à déterminer. On va essayer de simplifier les choses pour aller au moins vers un groupe de papillons ou vers quelques espèces qui sont vraiment particulières. Et pour y arriver, on va bien sûr se baser sur les couleurs.
Alors parlons tout d'abord des papillons blancs, ou presque blancs. Au printemps, on les voit souvent, et c'est assez facile parce qu'ils sont presque tous de la même famille. En soi, ils sont présents toute l'année, mais c'est vrai qu'en hiver, ils sont moins actifs, et nous, on a moins le nez dehors, alors on les voit moins. Ces papillons blancs sont des pierrides. Chaque espèce est liée à une plante hôte spécifique, donc on a la pierride du navet, de l'arabe, de la moutarde, du chou. Les papillons sont quasiment identiques, donc blancs, avec une ombre grise-noire plus ou moins marquée sur le bout des ailes antérieures et des points sur les ailes quand elles sont ouvertes, ou pas, ou des fois oui, mais des fois non. C'est pour ça qu'on va s'arrêter à papillon blanc, sûrement une pierrite. Par contre, il y a un autre papillon blanc qui a toutes les nervures noires très marquées, bien dessinées, un peu comme un vitrail. Ça, ce n'est pas une pierrite, c'est un gazé. Il est très très beau, relativement commun, et on le trouve dans les broussailles et sur les herbes, ou parfois dans les vergers, parce que ça lui arrive d'attaquer les fruits.
Avant de passer aux couleurs à proprement parler, on va encore parler d'un papillon qui est cette fois clairement noir et blanc. C'est le demi-deuil. Il ressemble à d'autres espèces, mais qui ne sont pas dans notre région, donc normalement, on n'a pas de raison de le confondre celui-là. Quelques faits intéressants sur ce papillon, c'est déjà que contrairement à la plupart des papillons qui guettent le passage d'une femelle, le mâle du demi-deuil cherche lui activement les femelles qui émergent de la végétation pour trouver une partenaire. Et côté femelle, les œufs sont lâchés directement en vol ou depuis un perchoir et non déposés sur une feuille. La femelle les largue dans l'environnement et advienne que pourra. Ce papillon a une période de vol de mars à septembre.
Je repars juste un peu vers les pierrites dont on a parlé juste avant parce qu'il y a une espèce en particulier de pierrite qui n'est pas blanche, c'est le citron, qui comme son nom l'indique est jaune flashy, hein, mais alors vraiment flashy. Alors lui on peut pas le confondre non plus. Il est relativement grand, mais ça c'est toujours difficile d'en juger quand on ne connaît pas, mais par contre il a une forme d'aile très spécifique avec les bouts qui sont en pointe. Entre ce critère de pointe et le jaune, on peut pas le manquer. Évidemment, c'est surtout le mâle qui arbore de telles couleurs. La femelle est plus discrète, avec des nuances plus pâles et un peu verdâtres. Le citron fait 2 générations par année. Au sortir de l'hiver, on a donc une première vague et on en aura une deuxième en juillet et août.
On va parler maintenant de l'aurore, qui est un papillon blanc et orange. Il fait d'ailleurs partie des orange tips, en anglais, qui décrit bien le bout de ses ailes qui est orange. Encore une fois, c'est le mâle qu'on va facilement reconnaître parce que la femelle n'a pas d'orange. On peut donc la confondre avec une pierride. Mais si on voit un mâle, l'identification est évidente. Même s'il aime aussi la lierre, son nom latin cite sa plante hôte principale, la cardamine, une des premières jolies fleurs des champs. C'est un papillon qu'on va voir jusqu'au début de l'été.
Bon, on pourrait s'étendre en long, en large et en travers sur les papillons, mais on ne voulait pas se focaliser que sur eux. Alors on va encore en citer juste quelques-uns, mais après on change de groupe.
On fait souvent appel à nous pour identifier un grand papillon jaune et noir. Pourtant, il n'en existe pas des milliers. Mais c'est vrai que nous avons dans nos contrées 2 grands papillons portant ces couleurs. Si on a le temps de bien les voir, on pourra facilement identifier des motifs. Ou si on connaît les motifs en amont, on pourra facilement les remarquer. Mais quand on est novice, on ne retient que grand papillon jaune et noir. Ces 2 espèces proches, ce sont le flambé et le macaon. Et en fait, dès qu'on voit des images, on ne peut plus se tromper. Le flambé est principalement jaune pâle avec des lignes noires qui partent toutes de l'avant de l'animal. D'ailleurs, l'avant des ailes, quand elles sont ouvertes, est perpendiculaire au corps, ce qui est très remarquable et qui fait que toutes les lignes noires vont du coup vers l'arrière. En plus, ce papillon a 2 filaments au bout du corps qui sont ornés de motifs bleus. Le macaon a aussi une dominante de jaune, mais lui, il a des motifs noirs sur tout le bord des ailes. Et on voit vraiment des nervures comme un vitrail, ce qui n'est pas du tout le cas du flambé. Il a aussi malheureusement du bleu à l'arrière du corps et 2 filaments, mais ils sont moins grands. Alors concernant la forme, le macaon peut avoir ses ailes perpendiculaires, mais il a souvent une réelle forme de papillon.
Et pour finir avec les lépidoptères, on va citer plusieurs espèces qui sont toutes orange et brune avec chacune leur particularité. Alors, la petite tortue est orange, avec des marques noires et jaunes à l'avant des ailes, et un liseré fait de points bleus sur tous les autres côtés. Le paon du jour est aussi orange, il a aussi des marques noires et jaunes à l'avant, mais il a surtout 4 yeux, ou ocelles, qui sont dessinés, 1 sur chaque aile. Sur les ailes avant, les ocelles ont un cœur rouge, et sur les ailes arrière, elles sont plutôt bleues. Ces 2 papillons se voient à toutes les saisons. La belle dame est principalement orange, avec des points noirs sur les ailes arrière, et le bout des ailes avant plutôt noir, avec des points blancs. À ne pas confondre avec la mélitée du mélampire, qui est quasiment toute orange avec un liseré noir et blanc sur tout le bord des ailes, sauf à l'avant, et quelques points noirs seulement. Et on a encore le vulcain, qui lui est surtout noir, avec un liseré orange à l'arrière du corps, donc c'est inversé, et aussi des points blancs sur le bout des ailes avant. Ces papillons se voient de mars à novembre, et même de mai à août, un peu plus court pour la mélitée.
Voilà, on s'arrête là pour les papillons, mais c'est vraiment fascinant de voir la diversité de ces animaux. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à acheter un guide sur les papillons de votre région et à l'avoir toujours dans votre sac pour identifier ce que vous voyez. Le temps file, mais on va quand même parler de quelques autres groupes d'insectes, notamment les libellules qu'on voit autour des plans d'eau dès que la chaleur est au rendez-vous. Elles aiment ce milieu parce que, comme on l'a dit en début d'émission, leur cycle de développement implique que leur larve est aquatique et donc elles ne sont jamais loin de l'eau. Une des premières libellules qu'on va voir dès la fin avril, c'est la libellule déprimée. C'est une des plus faciles à identifier parce qu'elle est assez petite, trapue, avec l'arrière du corps bleu clair. Il n'y a qu'une seule autre espèce avec laquelle on peut la confondre, c'est la libellule fauve, qui est de la même coloration, mais avec un corps plus long qui se termine par une pointe noire plus prononcée. Par contre, à savoir, les individus immatures sont jaunes pour ces deux espèces. Ça aurait été trop simple sinon.
Un peu plus tard dans la saison, dès la mi-mai, on peut observer les agrillons. Ce sont aussi des odonates, donc le même ordre que les libellules, mais un sous-ordre différent, celui des demoiselles. Ce sont des sortes de petites libellules qui sont hyper fines et qui semblent toutes frêles. Quand elles se posent, au contraire des libellules qui gardent généralement les ailes ouvertes, les demoiselles les ferment le long de leur corps. Alors, chez les agrillons, le plus facile à identifier, c'est l'agrillon élégant. De tous les agrillons, c'est le seul qui est majoritairement noir, avec du turquoise sur le thorax et sur le bout de la queue. De nouveau, on parle ici du mâle, hein, parce que la femelle, elle est toute beige. Pour les autres agrillons, ça se complique, parce qu'ils sont quasiment tous turquoises, avec des parties de segments noirs. Pour les identifier, on doit regarder le motif noir qui se dessine sur le thorax, ce qui est loin d'être facile, vous pouvez l'imaginer.
D'ailleurs, pour une des premières sorties nature de Nariès en 2012, on était allé à Versoix pour une sortie insecte qui avait pour but de tenter de voir l'agrillon de Mercure, qui est très rare mais présent dans ce coin particulier. On est rentré bredouille avec tout de même de jolies observations mais pas de Mercure. Et ce n'est qu'en retravaillant nos photos et en zoomant à fond qu'on a réalisé qu'un des agrillons qu'on avait pris sur place pour un agrillon jouvencelle était en fait un agrillon de Mercure.
Oui, c'est vrai que pour ces identifications, c'est toujours une bonne idée de mitrailler avec votre appareil photo et de regarder ensuite tout ça au calme.
Pour finir avec les libellules, on va juste mentionner les deux autres grands groupes qu'on peut observer par chez nous, les aeschnes, A-E-S-C-H-N-E, ça fait un malheur aux mots croisés, qui sont des libellules de taille moyenne, et les anaxes, qui sont de grandes libellules. Les espèces sont très nombreuses et relativement variées, alors c'est un peu difficile de vous décrire les différences à l'oral, mais de nouveau, si ça vous intéresse, procurez-vous de la documentation ou écrivez-nous, et nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous en dire plus.
Et de toute façon, on s'emporte un peu, mais il faut qu'on termine cette émission. On voulait vous parler de plein d'autres insectes, les sirfes, les morosphinx, les sauterelles et les grillons, mais ce sera pour une prochaine fois.
Avant de vous quitter, nous vous rappelons qu'au mois de mai, la biodiversité est à l'honneur avec le jour de la biodiversité le 22 mai et que pour fêter ça dignement, la Fête de la Nature organise, comme chaque année, un week-end rempli d'activités gratuites en lien avec notre belle nature. Les inscriptions vont bon train, alors si vous souhaitez y participer, n'attendez plus pour aller consulter le programme et décider des activités que vous voulez suivre. Toutes les infos sont sur fetedelanature.ch et Nariès vous propose une sortie abeille, une sortie amphibien et une sortie mythe et légende. Nous vous avons tout expliqué dans l'émission de la semaine passée, donc si vous l'avez raté et que vous souhaitez avoir plein d'infos, n'hésitez pas à réécouter le podcast sur Radio Cité Genève ou sur www.naries.ch.
Nous avons été ravis de vous parler d'entomologie aujourd'hui et nous espérons que vous prendrez plaisir à regarder les petites bêtes autour de vous avec un regard neuf. Envoyez-nous des photos si vous avez des questions d'identification ou si vous souhaitez juste partager la joie d'une belle découverte.
La semaine prochaine, on recommence en tournus et on se retrouve pour un côté passion. Et en attendant, on vous souhaite à tous une excellente semaine.
Au revoir, bonne semaine à tous.
Genève. Côté. Nature.